Avec le sociologue français Albert Augien, nous allons parler émancipation, lutte minoritaire, lutte universelle. Est-ce que l'universalisme est en but aujourd'hui au problème de particularisme? C'est une question qui revient souvent ces temps-ci. Il y consacre un livre qui sort chez Textuel.
La première, le fin mot, Eddy Kachelbergs.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
L'homme n'a pas attendu 1948 pour définir ses droits. Mais c'est la première fois, après 6 siècles d'efforts, qu'un caractère universel est accordé à ses besoins de liberté, d'égalité, de justice. C'est la première fois que les nations envisagent de faire suivre une déclaration des droits de l'homme d'un pacte qui les obligerait à les respecter. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, patronnée par Lafayette et Sieyès, adoptée par la Constituante et placée en tête de la Constitution de 1791, qui se rapproche le plus de l'universalité parce qu'elle ne mentionne aucune nation, aucun régime, aucune époque. Elle est, certes, l'œuvre d'une classe, mais elle est si vaste qu'aucune limite sociale ne peut lui être imposée. Quantité de décisions de l'Organisation des Nations Unies se sont inspirées depuis 1948 de certains aspects de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Convention sur les droits de la femme et de l'enfant, sur la discrimination raciale, sur les réfugiés, sur les apatrides, sur l'esclavage, sur le travail forcé. À la liberté essentielle, fondamentale, inaliénable, ne s'ajoute-t-il pas un devoir? Le devoir d'être un homme. D'être un homme dans un monde où la dignité avait besoin de la Déclaration universelle pour nous rappeler qu'elle n'avait pas complètement disparu.
Les droits de l'homme.
Les droits de la femme.
Les droits de l'enfant.
Éducation.
Liberté d'opinion.
Liberté d'esprit.
Santé.
Lutte contre la pauvreté.
Mariam, Hassan, Djibo, Fatou, des enfants comme les autres, et pourtant très différents.
Un enfant qui travaille à 2h du matin pour aller dépecer du bétail, ce n'est pas normal. Un enfant qui doit aller dans une mine pour entrer dans les grottes pour chercher de l'or, ce n'est pas normal.
Eux aussi ont le droit d'être tout simplement des enfants.
Le fin mot
sur la première.
Bonsoir Albert Roger.
Bonsoir.
On va parler universalisme versus particularisme, si je devais le résumer comme tel. Est-ce que pour autant l'un est antagoniste de l'autre? Non, dites-vous.
Oui, alors là, il faut dire que ce sont des termes qui sont appliqués à quelque chose qui s'appelle l'émancipation. C'est pas en général l'universel et le particulier. J'aurais pas la prétention de parler de choses aussi hautes dans la sphère de la pensée. Mais du point de vue de l'émancipation, en fait, ça pose un certain problème qui est l'opposition que des gens ont au fait que des minorités puissent revendiquer des formes d'émancipation, alors que l'ancienne tradition, plutôt de gauche marxiste, disons, considère que l'émancipation ne peut frapper que l'humanité en son entier, et donc elle est universelle dans ce sens-là où l'humanité vit sous la coupe d'un système de domination qui s'appelle le capitalisme, qui aliène les personnes, et donc on ne peut arriver à une émancipation de l'humanité que lorsque ce système-là aura été détruit. Donc ça, c'est le côté universel de l'émancipation. Et les particularismes ou les minorités sont bien sûr l'ensemble des personnes qui subissent des discriminations et qui luttent pour mettre fin à ces discriminations, ou ce que je préfère appeler sortir des situations de minorité dans lesquelles elles sont placées, c'est-à-dire des situations dans lesquelles leurs droits, leur dignité, leur liberté peuvent être bafoués au nom d'une inégalité qui a été d'une certaine manière inventée par un groupe dominant. Voilà. Donc la question, elle est devenue critique au sens où les gens qui défendent le point de vue universel se sont opposés assez violemment, je vais dire, aux gens qui défendent le point de vue particulier. Et dans le livre, j'essaie de faire un pas de côté sur cette critique ou sur cette accusation, disons, en m'étonnant du fait comment se fait-il que des gens qui demandent la fin d'une discrimination puissent être disqualifiés au nom du fait qu'ils n'auraient pas le droit de le faire parce que ça contrevient à l'idée d'universel. Et donc, en principe, on ne voit pas très très bien ce qu'il y a de mal à demander la fin d'une discrimination ou l'égalité de droit entre les personnes. Enfin, je pense que toute personne sensée qui a en tête l'idée de l'émancipation de l'humanité devrait se réjouir de ça. Or, on s'aperçoit que non, qu'au fond, les luttes minoritaires, ce qu'on peut appeler les luttes minoritaires, contreviennent à l'idée de la lutte universelle qui serait bien sûr la lutte des classes, et on distrairait les personnes, donc les femmes, les minorités racisées, les homosexuels, enfin tous ces groupes qui se sentent discriminés et qui luttent pour l'égalité des droits. Ils détourneraient l'attention, disons, de la lutte centrale qui est la lutte contre le système capitaliste. Et à ce titre-là, on leur dit, taisez-vous un petit peu, vous serez libres lorsque le système en général aura été détruit.
Est-ce que le problème peut également avoir un volet sémantique ? Vous venez de citer, par exemple, les groupes homosexuels de revendication, en tout cas, à cet égard, d'émancipation. On est passé du langage, par exemple, du droit au mariage commun à tous, y compris pour les homosexuels, à une sémantique du type « le mariage homosexuel ». En fait, ils ne demandent pas un mariage particulier, ils demandent l'exercice du droit plein et entier comme les autres.
Oui, absolument. Mais il y a toutes sortes de dérives de cet ordre-là. C'est ce qui montre à chaque fois à quel point la revendication de droits, elle est toujours choquante pour ceux qui disposent de l'ensemble des droits et qui voient d'autres personnes qui demandent des droits auxquels ces personnes qui ont tous leurs droits croient qu'il est possible de s'opposer en disant « mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Qu'est-ce que vous réclamez ?» Ça a valu bien sûr pour les femmes, ça a valu pour les populations qu'on appelle racisées, donc les Noirs, les Arabes dans les métropoles. Ça a valu aussi pour les enfants. C'est d'ailleurs assez étrange parce que les enfants pour lesquels dans les années 68-70 on revendiquait la liberté, l'égalité, au même titre que les adultes d'ailleurs, ça a donné lieu parfois à des lois où on disait par exemple l'école, au centre de l'école se trouve l'enfant. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de régression comme ça où enfin on parle plus tellement de ça, plutôt pour les enfants. C'est la question de la pédocriminalité qui a pris le dessus et la défense absolue de l'enfant dans sa pureté, alors que lui donner des droits aujourd'hui semble un peu aberrant. D'une certaine manière, l'infantilisation qui pèse sur les enfants ou le retour de l'infantilisation pour les enfants, ça vaut pour l'ensemble des autres minorités. Et voilà, donc ces dérives sémantiques, comme vous les nommez, sont symptômes de cette difficulté, disons, à admettre que des gens qui ont des revendications en disant « mais on me bafoue, je ne suis pas respecté dans mes droits » et les demandes sont toujours mis en procès, en fait.
Oui, on est quand même dans une société qui est, qu'on le veuille ou non, ces dernières décennies de plus en plus anglo-saxonisée ou américanisée, avec alors parfois les revendications particularistes. Hein, dans le multiculti, on a vu en Grande-Bretagne, par exemple, beaucoup de communautés de revendiquer des droits particuliers réservés à leur communauté qui ne sont, ou des dérogations pour leur communauté qui ne sont pas communes à d'autres. Ceci a pu brouiller les cartes. L'idée n'est pas de revendiquer des droits pour les qui est des droits pour les Marocains vivant en Belgique, mais de leur donner le plein exercice de tous les droits reconnus à tout le monde.
C'est la question de la citoyenneté. C'est-à-dire, soit la citoyenneté, elle prime. Je pense que l'ensemble des minorités acceptent ces principes-là. Ceux qui se mettent en marge, qui ne sont pas simplement, d'ailleurs, et uniquement ces minoritaires-là, mais il y a des personnes dans... Enfin, je pense en particulier à un groupe d'extrême droite allemand qui s'est mis en dissidence complètement, qui a créé, je ne sais pas si vous avez vu ça, un petit royaume dans lequel il s'exonère des lois de la République allemande. Bon, il peut y avoir d'autres groupes qui se mettent comme ça en marge. Mais disons, c'est ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est de considérer que si des gens veulent faire valoir leurs différences culturelles, religieuses, d'attitude devant la vie, sont toujours amenés à cette idée qu'ils vont détruire les règles de la citoyenneté globale. Alors qu'en fait, comme vous le dites très justement, c'est la simple revendication d'avoir une égalité de droits. Et celle-là, c'est toujours surprenant, qui énerve, qui n'est pas acceptable et pour laquelle précisément ces groupes doivent s'organiser pour lutter afin de l'obtenir. Et oui, c'est assez étrange. Personne ne s'est jamais mis au banc des lois de la République, mais demande simplement... Alors, je prends le cas, par exemple, pour la religion musulmane. Si les États reconnaissent la liberté de culte, on ne comprend pas très très bien pourquoi un culte aurait moins de droits à être reconnu qu'un autre. Voilà, c'est une chose où on voit bien sûr s'exprimer une sorte de rapport de force quand même autour de la notion de citoyenneté, c'est-à-dire un groupe qui se décrète possesseur du titre de qui a le droit d'être citoyen et qui fait barrière et qui contrôle l'entrée dans la citoyenneté des gens et s'interroge pas, par exemple, sur le fait que ceux qui l'ont déjà normalement, est-ce qu'ils respectent eux-mêmes les règles de la citoyenneté ? Dans bien des cas, c'est pas le cas. mais simplement leur statut, disons, bon, je pense là à la question de la France et à la question de la République en France, la manière dont la République est mise en avant pour demander un arasement des différences entre les gens. Bon, mais c'est assez violent, je trouve, en France. Ça l'est un peu moins en Belgique. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de l'ambiance que je trouve être plus pacifiée et plus agréable ici, où le fait de revendiquer une différence... Alors, c'est peut-être dû effectivement à la différence entre flamands et wallons. Enfin bon, toute une histoire bien particulière à la fois des institutions et du pays. Mais c'est qu'on ne voit pas en quoi ce qui se passe en Belgique en termes de tolérance met en danger, en quoi que ce soit, l'existence du pays, la société ou dans d'autres cas, la République.
En tout cas, pas de manière majoritaire, c'est certain. L'émancipation ou les émancipations, la Déclaration universelle des Nations Unies 1948 consacre avec grande difficulté cette notion d'ailleurs pour les peuples, hein, ce droit à l'autodétermination, ils vont devoir le gagner au-delà des textes et on voit encore combien les décolonisations s'opèrent peut-être sur papier mais pas forcément dans les esprits. Ce que l'on refuse ou ce que l'on a longtemps refusé aux États, ça met encore plus de temps pour l'accorder aux individus et aux groupes.
Oui, je préfère oui, aux groupes parce que la question des individus, là aussi... Les individus, ils traitent de ces questions de discrimination bon, avec les moyens qu'ils ont. Et donc, comme un universitaire américain, Tommy Shelby, l'a bien montré, la possibilité qu'on a devant, quand on est une personne discriminée, et face à la discrimination, il y a trois options qui sont possibles. Soit nier qu'il y a une discrimination en disant « bon ben j'ai qu'à être comme n'importe quel Belge, n'importe quel Français et suivre le parcours et je vois pas en quoi ma couleur de peau, ma religion ou mon genre affecterait en quoi que ce soit. Donc, je refuse d'être traité différemment. Donc, on nie l'existence de la discrimination. Soit on lutte contre cette discrimination. Donc, on rentre dans des groupes et puis on se bat pour reconnaître les droits. Et la troisième option, c'est celle du retrait. Ce que Tommy Shelby montrait très, très bien. C'est qu'au fond, et donc Tommy Shelby travaillait sur les Noirs américains en montrant comment une partie de ces populations discriminées préféraient se mettre ensemble et vivre dans une sorte de ghetto pour eux, où eux-mêmes s'auto-magnifieraient et n'auraient jamais à affronter le regard extérieur et de la discrimination. Donc les individus, voilà, ont ces choix-là. Donc pas tous les individus vont rentrer dans des groupes qui vont se mettre à lutter pour leur émancipation. Mais ce que vous dites est vrai, mais... Il faut laisser du temps, c'est un peu triste à dire, mais il faut laisser du temps à l'histoire et les marqueurs, comme vous le dites, par exemple la déclaration de 48, sont des marqueurs historiques importants, mais on ne peut pas attendre d'un phénomène comme celui-là ou d'un événement comme la signature d'une convention ou d'un texte, on ne peut pas attendre de cet événement-là qu'il change immédiatement la situation. Alors c'est un peu triste parce qu'il faut attendre, longtemps, il faut continuer à lutter, rien n'est jamais acquis, il peut y avoir des retours en arrière. Bon, ben, prenons le cas, par exemple, du droit de l'avortement aux États-Unis, qui a été une revendication quand même forte pour les femmes. On a cru que c'était acquis, et voilà qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit biais juridique qui fait que ça ne l'est pas complètement. Et donc, je ne sais pas si on anticipe le développement de cette histoire et s'il n'y a pas un texte législatif qui vient affirmer ce droit. Ça serait étrange qu'on ait un pays dans lequel la moitié des États refusent totalement l'avortement et l'autre moitié des États l'acceptent. Donc on serait dans une situation qui serait assez cocasse d'une certaine manière, même par rapport aux gens qui considèrent qu'il y a une unité d'un pays, donc il y a une loi commune qui va régir l'ensemble des habitants. Et là, on serait dans un cas où la moitié des habitants du pays agiraient selon une norme qui serait différente de l'autre moitié. Et bon, personne ne semble y voir grand-chose à redire. Donc voilà, c'est vrai, c'est un peu triste, mais il faut continuer à se battre contre les discriminations. Et peut-être par chance... Petit à petit, les discriminations s'amenuisent. On n'en voit pas de nouvelles qui se créent, en fait. Donc c'est déjà bien, parce qu'on pourrait, je ne sais pas, multiplier les cas de choses qui nous dérangent et qu'il faudrait éradiquer. Au fond, non. Au fond, on voit des grands groupes qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits. Et bon, moi, je suis un peu trop optimiste, mais je pense que oui, petit à petit. Alors, ça prend du temps, il y a beaucoup de malheurs entre-temps et ils ne sont pas compréhensibles. Mais au bout du compte, la sphère des droits individuels s'est accrue.
Est-ce qu'on pourrait dire, Albert Ogien, en poussant ce raisonnement, que le discours d'une certaine gauche, et parfois aussi à la gauche de la gauche, comme on dit pudiquement, qui considère par exemple que les immigrés
sont les nouveaux prolétaires de la fin du XXe et du début du XXIe. Est-ce que cette néo-prolétarisation va un peu à l'encontre d'ailleurs de l'émancipation de ces groupes, dans la mesure où on va répliquer le discours du « attendre la lutte finale » ?
Oui, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Dans la position que moi je prends, qui est celle d'un analyste, j'essaie d'expliquer dans le livre que dans l'ensemble de ces luttes d'émancipation, que ce soit celle des femmes, des populations racisées, des homosexuels, pour prendre ces trois cas que j'analyse, ce qui se passe, c'est que c'est un combat politique. Dès lors qu'il y a lutte d'émancipation, il y a un combat. Et ce qu'on observe, c'est que dans ce combat, différentes positions vont s'affronter à l'intérieur d'un même domaine. Par exemple, pour les femmes, on aura plusieurs options possibles hein, qui sont plus ou moins éloignées d'une coopération pacifique avec les hommes. Donc il y en a qui vont prendre un écart absolu, un refus. Donc on va lutter contre le patriarcat et essayer d'éradiquer la différence des genres ou les discriminations. D'autres qui considèrent que non, il faut avoir les hommes en tant qu'alliés. Après, il y a d'autres distinctions, je ne vais pas rentrer trop dans ces distinctions-là. Mais on l'observe sur la lutte d'émancipation des Noirs. Celle des, je sais pas comment faut dire, enfin en France on nie les Noirs et les Arabes pour être clair et reprendre un peu les termes que ces mêmes personnes utilisent pour elles-mêmes. Et pour les homosexuels c'est pareil, on va avoir bon, donc je rentre pas trop dans le détail, et donc ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a une option à l'extrême gauche qui consiste à faire des immigrés les prolétaires du temps moderne. Bon, c'est, on peut pas nier que c'est bon, de mon point de vue, ce sont des expressions idéologiques qui ont une certaine logique. Je ne rentre pas dans l'idée est-ce que c'est légitime ou pas, mais il y a une sorte de logique de la différenciation en politique qui permet à des gens d'avoir des discours ou de prendre un certain phénomène et de l'analyser d'une certaine manière. Donc ce que vous dites, oui, moi, ça me, je suis pas trop factuellement d'accord avec l'idée que les minorités musulmanes, par exemple, soient les nouveaux prolétaires du monde. Enfin, aucun fait ne vient corroborer une affirmation de ce type-là. Donc c'est purement de l'idéologie. Bon, libre à eux de le faire. Je doute même qu'ils arrivent à convaincre leur propre population, donc d'origine maghrébine ou musulmane, que c'est le cas. Je pense qu'elles ont autre chose à dire pour leur défense ou pour la défense de leurs droits. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une chose, mais alors je parlerai plus pour le cas de la France, c'est que ce discours-là, d'une certaine manière, il dédouane, je vais être un petit peu méchant, il dédouane ces milieux d'extrême gauche de l'intérêt réel pour les problématiques des populations dont elles parlent. Je prends un exemple très simple, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que souvent on constate que dans les mouvements sociaux en France, en tout cas, on dit mais où sont les banlieues ? Donc on dit, voilà, les gens défilent à Paris, où sont les banlieues ? On voit pas les banlieues. Alors vous voyez l'euphémisation de la chose. Et c'est vrai que, ou pour les élections. Donc dans les élections, la gauche va aller dans ce qu'on appelle les quartiers ou dans les banlieues, et il y a un très très faible taux de participation aux élections parce que les gens disent ça ne nous concerne pas, les élections c'est pour les Français, nous on n'est pas bien qu'ils soient tous Français, hein, donc il faut voir l'affaire. Donc il y a un taux d'abstention élevé et l'extrême gauche n'a pas réussi à percer un tout petit peu aux dernières élections présidentielles, mais en vérité il y a un vrai problème, et le problème il est que, comme vous le dites, il y a une représentation à l'extrême gauche du caractère prolétaire de cette population, que cette population, je pense, n'accepte pas vraiment. Et ses préoccupations à cette population sont plutôt la violence policière et les discriminations à l'embauche ou au logement. Voilà. Et on ne voit jamais ces préoccupations-là arriver au premier rang des préoccupations de l'extrême gauche. La première préoccupation, c'est la lutte des classes. Et puis après, on verra si les violences policières, ça rentre dans notre... Et donc, ces populations leur disent, mais alors, vous nous intéressez pas. Nos préoccupations sont les suivantes. Le logement, l'emploi, la violence policière. Est-ce que vous êtes d'accord pour les mettre au premier rang ? Eh ben, en vérité, ça les gêne, ces milieux-là, parce que ça contrevient à leur idéologie. Donc, ils peuvent défendre ce point de vue-là. Je pense qu'il n'est pas fondé. Factuellement, il n'est pas fondé.
Le temps passe vite, mais pour encore cerner un peu mieux le fin mot de cette histoire, est-ce qu'il est possible de dire pour l'instant, puisque quand même les luttes sociales se multiplient, on voit des mouvements en tout cas sociaux, on pense aux Gilets jaunes bien sûr, hein, entre autres, mais est-ce que aux États-Unis et même chez nous, avec Black Lives Matter, bon, il y a énormément quand même de mouvements sociaux. Est-ce que les mouvements sociaux sont conscients de cette dynamique ? à savoir du discours à porter, c'est-à-dire à la fois de revendiquer le droit universel reconnu pour tous au nom de leur particularisme à y accéder, ou est-ce que là aussi c'est un peu le flou artistique ?
Oui, flou artistique, je sais pas. Il me semble en tout cas que ce sont des choses qui sont en débat. Par exemple, pour prendre le cas dont on vient de parler, pour les milieux d'extrême gauche, il est assez clair que comme ces populations discriminées sont des populations françaises, donc qui ont les droits, formellement les droits
de tous,
et en particulier le droit de vote, le fait que ces gens ne votent pas, alors qu'ils sont en bas de l'échelle et qui devraient normalement venir en soutien aux propositions politiques qu'ils font, est quelque chose qui est gênant. Je sais que c'est quelque chose qui est débattu. Donc, quand vous posez cette question-là, c'est pareil pour les mouvements de femmes, c'est pareil pour les mouvements, par exemple, quand on a vu les attaques contre les statues, ces brefs moments comme ça où il y a eu tiens, on va prendre les statues, on va les déboulonner pour changer un peu la représentation de l'histoire. Bon, tous ces moments, c'est des moments où cette question que vous posez, elle est en débat. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse plus, de voir que il n'y a pas un interdit, il n'y a pas quelque chose qui va venir exprimer un refus ou un accord, mais il y a un débat qui est ouvert sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec cette question-là. Par exemple, on en parlait tout de suite, est-ce qu'il faut que les violences policières soient un thème premier, ou l'accès au logement, un thème premier des revendications de l'ensemble de la société française? Et ça ouvre un débat, parce qu'il est vrai que pourquoi s'intéresser à une partie limitée, alors j'ouvre une parenthèse, et en plus qui ne vote pas, je ferme la parenthèse, et donc on va laisser le discours politique s'adresser aux personnes qui votent. Et alors, comme on sait, c'est bien sûr les retraités. Et donc, on a toujours un discours qui est très, très plat du point de vue des argumentaires électoraux. Mais pour tout Black Lives Matter, pour le climat, pour le féminicide, pour l'ensemble de ces grands mouvements qui balayent la planète, bon, moi, je me satisfais, ou je suis assez heureux du fait que les jeunesses du monde entier s'engagent sur ces thèmes-là en les revendiquant. C'est ce que ça fait comme changement. On va s'interroger peut-être, mais je ne sais pas, bon, que Greta Thunberg existe sur Terre est quelque chose, un bienfait pour l'humanité. Pas tout le monde ne pense ça, mais moi je crois que oui. Le fait que Floyd ait été assassiné dans les conditions où il a été assassiné et qu'une grande vague de manifestations ait parcouru le monde, ça m'encourage à penser que l'idée des droits, elle gagne aussi. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas dire bon, c'est quelqu'un qui était un délinquant qui a été assassiné en pleine légitimité. Et donc, bien sûr, on n'est pas en Amérique. Mais c'est intéressant de voir que des choses qui peuvent se passer quelque part sur la planète, je pensais à ce qui s'est passé avec les flash mobs des femmes au Chili, et à quel point ça s'est développé ailleurs, ou des manifestations pour l'avortement dans des pays qui le supprimaient, comment ça peut avoir un retentissement partout ailleurs sur Terre. Donc moi, je suis peut-être trop optimiste ou trop, comme on dit, bisounours, en pensant que l'humanité, elle est tellement belle et c'est formidable. Mais voilà, ce sont des faits qui, à titre personnel, me rassure sur la capacité des gens à s'accorder sur l'idée qu'il y a un socle de droits humains et de dignité qu'il faut défendre. Et si on ne les défend pas, c'est nous-mêmes qui sommes mis en danger.
Allez poursuivre cette série de réflexions sur les émancipations, lutte minoritaire, lutte universelle, qu'Albert Augien, qui était notre invité, signe chez Textuel avec cette phrase « Toute lutte d'émancipation est universelle ». Merci d'être venu nous en donner le goût.
Je vous en remercie, oui.